Vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais j'ai dit pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement,
moi, je n'ai pas rencontrer quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Nous sommes le mardi 23 mai 2023. Il sonne 11h, passé légèrement de quelques instants. Et vous nous écoutez sur Canal FM et ses radios partenaires, dont Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM depuis Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokone, Radio La Paix, la voix des plateaux à Atakpamé, Radio Lumière à Nero, mais également les radios numériques comme Ebene Radio, Radio Le Bénin et d'autres canaux numériques sur lesquels vous êtes en communion avec nous au jour le jour et grâce aux techniciens. Aujourd'hui, c'est le duo Thomas Datevi et Jérôme Kodjo Akucha. Au studio, déjà deux confrères installés, mais laissez-moi vous donner le menu. Et c'est mardi, nous allons parler des arts, de la culture et du tourisme. Ensuite, nous allons revenir sur quelques réalités, voire des polémiques, dans le monde des enseignements au Togo et pourquoi pas ailleurs. Et puis, sur le domaine économique, nous allons parler des mines, des transports aériens et bientôt d'autres sujets si nous avons le temps. Et pour parler de tout ça, Eric Hugues Pakudo Johnson du journal Union, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour chers confrères, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Merci
Sass,
Eric.
J'ai comme l'impression que tu es grippé ce matin.
Tu es sorcier?
Non mais en entendant, en t'écoutant, on sent que tu es vraiment grippé. Mais attention, tu sais, il y a une nouvelle loi aujourd'hui sur... la vaccination et qui intègre également la vaccination sur la COVID-19. Et donc, il est demandé aux structures sanitaires de prendre en charge ceux qui sont des cas suspects de grippe, et de les considérer immédiatement comme des cas suspects de COVID-19. Et toutefois, oui, c'est vrai que quand on te suspecte, il faut qu'on passe quand même au test. Et donc, quand le test confirme, tu subis quand même une vaccination de COVID-19.
Même si j'ai fait mes deux cycles de vaccins AstraZeneca.
N'empêche, parce que après tout ça, logiquement, après un an, il faut renouveler. Parce que, tu sais, la loi dit également que lorsque vous sortez de ce pays, il faut vous faire vacciner. Mais ce n'est plus obligatoire. Il y a de cela un an, avant de quitter le territoire togolais, il faut forcément se faire vacciner. Parce que dans les autres pays, c'est la loi là qu'on vous applique quand vous arrivez à destination. Tu vois, par exemple, en Côte d'Ivoire, on ne demande plus de tests de COVID. Mais quand vous y arrivez, on vous fait, on prend votre température, on exige quand même la vaccination de variole et de
carnet jaune.
On exige, on vérifie tout ça. Et là, vous pourrez rentrer en Côte d'Ivoire. Mais au Togo, quand vous y arrivez, il faut montrer des preuves de tests, des preuves de vaccination. Et si vous êtes négatif, vous passez. Mais tout ça là, ça ne doit pas dépasser 5 jours.
Merci pour le tuyau. En tout cas, tu l'écris dans ton journal à la page 3, l'article intitulé Programme élargi de vaccination et stratégie nationale de la vaccination contre la COVID-19 y sera intégrée. Je reviens autour de table avec deuxième invité, Sam Anas Djobot Tereou, de l'Éveil de la Nation. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour Eric, bonjour au second confrère, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de la nouvelle génération.
Et le troisième confrère, il vient de nous rejoindre, c'est Isidore Sassou Atialo Akolo de Actu Express. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour confrère au plateau, bonjour à toutes et à tous.
Merci, c'est parti, hein, jusqu'à 12 heures, nous débattons entre nous ici. Après la pause de 12 heures, les auditeurs pourront entrer en ligne et composer le 22, le 21, 33, 74 ou le 91, 36, 63, 75 pour co-animer. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet dont nous aurons débattu jusque-là et vous nous aurez aidé à élargir la réflexion. La pensée du jour qui dit ceci, les gens se voient, entendent et parlent. Malheureusement, ils voient mal, ils entendent peu, mais parlent trop. Encore une fois, le sage nous dit que les gens se voient, entendent et parlent. Malheureusement, ils voient mal, entendent peu, mais parlent trop. Hein, chacun pourra continuer à méditer sur cette pensée du jour. Chapitre numéro 1, c'est mardi. Nous ouvrons la page des arts, de la culture et du tourisme. Alors, je ne sais pas, hein, Anas Sassou ou bien Pakoudjo, si vous avez écouté RFI ce matin, vous aurez appris tout comme moi que les fortifications de l'habitat Koutamakou, des populations Batamariba, que nous appelons communément les Tamberman, eh bien, leur habitat est à l'honneur sur Radio France Internationale aujourd'hui pour une première partie. L'émission va revenir là-dessus demain. Et Anas, tu te rappelles combien de sujets la presse togolaise consacre à cet habitat si particulier des fortifications Koutamakou ou Château Tamberman?
Oui, je pense que si le Togo a une fierté en termes de tourisme, je crois que le site Koutamakou en fait partie parce que c'est un patrimoine de l'UNESCO, patrimoine togolais de l'UNESCO. Donc ça fait partie des sites les plus viables de notre pays. Et il est important que les autorités du pays entourent ce site de beaucoup de soins pour qu'il continue de drainer beaucoup de touristes. Et ce matin, c'est l'annonce que moi j'ai suivie avant de démarrer de la maison où on annonçait, je crois même qu'il y a un Togolais ou un natif de la localité qui est intervenu pour parler de ce site. Et il faut beaucoup plus continuer par entretenir ce site, à le valoriser, pour que l'UNESCO, qui a décidé de classer ce site au patrimoine culturel, puisse continuer par faire confiance au Togo. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'un site est classé au patrimoine de l'UNESCO, ce site peut être déchu si les conditions ne sont pas réunies au fur et à mesure. Mais depuis que ce site est classé au patrimoine mondial, je pense que le Togo fait toujours des efforts et nous comptons beaucoup plus sur le ministre du Tourisme qui a un regard assez panoramique sur tous les sites du pays pour qu'il continue par rendre ce site viable et fiable.
Merci. Les populations Batamariba ou Tamberman, comme nous l'appelons communément, sont à cheval sur le Togo et le pays voisin du Bénin. Leur architecture est classée patrimoine immatériel de l'UNESCO. Sauf que, Sassou, tu connais bien le site. Ce site qui souffre d'enclavement, la voie qui mène de Cantet jusqu'au pays Tamberman. C'est vrai qu'il y a quelques années que je suis allé, mais la voie souffre. La voie a besoin d'un entretien pour parler ainsi. Et justement, cet habitat qui se retrouve confronté à la pénurie des matériaux qui entrent dans sa construction, notamment les bois et la paille et bien d'autres choses.
Oui, vous avez touché du doigt le problème parce que c'est un parcours de combattant pour parvenir à Koutamakou. Si vous n'avez pas une voiture 4x4, vous ne pouvez pas y parvenir au risque d'endommager votre engin. Et ça ne favorise pas le tourisme. Et le site même est en état de délabrement avancé. Il convient qu'on puisse réhabiliter ce site. On en a parlé dans le sujet qui a été publié sur RFI aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. On nous a parlé de sa réhabilitation il y a plus de 5 ou 10 ans, pratiquement. Rien n'y fit. Et je rappelle que ce site n'est pas le seul, et, enfin, ciblé par l'UNESCO. Il y a aussi Wood Home qui...
La maison Wood
à Grand Fort. Et qui pratiquement, l'esclavage clandestin a été effectué après la destruction de Badagli. C'est le Togo qui a fait office de leader en matière d'esclavage clandestin. Et Woudoumé était le sanctuaire. Mais aujourd'hui, allez-y voir, c'est un état d'avancement délabré.
Oui. Il y a une bataille juridique qui oppose les héritiers de la famille entre eux et puis avec l'État.
Je ne pense pas que ce soit ça. Parce que l'État a toujours droit d'expropriation sur les terres, pourquoi pas sur les bâtisses. Si on découvre, il advenait qu'on découvre un minerai à Agbodranfor aujourd'hui, mais tout le village, cela
dégage. Il y a une distinction. C'est le sol qui nous appartient, mais le sous-sol appartient à l'État. Sauf que la maison Wood est bâtie sur le sol. C'est pas au sous-sol.
Il faut aller aux négociations.
Voilà.
Et aujourd'hui, paix à son âme, le vieux médecin qui exécutait les choses, c'était un ami personnel à moi.
Mm-hmm.
Il était pratiquement d'accord. Lorsque, et c'est Sassouvi Dossert à Nyoron, quand il était ministre de la culture, qui a révélé ce site aux gens, à travers la piste, enfin c'est ça la piste, non, la piste des esclaves,
ouais,
qu'on convoyait depuis le Monon vers le nord, Tchamba. Pourquoi vous arrivez à Nyoron, on trouve l'ethnie Tchamba, jusqu'à parler de Tchambaga. Toute la région, parce que quand on parlait la fois dernière, quand Akereburu avait parlé
le maire
ouais, avait parlé de, comment appelle-t-on, de l'eau, vous vous rappelez,
oui,
je me dis qu'il faut inclure dans ça l'esclavagisme, le rôle que Anero a joué dans l'esclavagisme.
Merci, donc, de site
Koutamakou, ça peut susciter, hein,
à la maison Wood,
ça peut susciter
la réflexion débats. Doit être menée, approfondie sur les sites historiques que le Togo se doit de sauvegarder, d'entretenir, et ça peut alimenter le tourisme. Et quand les touristes arrivent au Togo, un peu partout, ils logent dans des hôtels, et c'est dans ce sens que l'Union nous parle de l'hôtel Rock, du Rock Hotel d'Atakpamé, qui va fermer à partir du 10 juin prochain pour des travaux. C'est une information qui émane du ministère de la Culture et des Loisirs.
Oui, Eric? Ça, vraiment, vous savez, le ministère du Tourisme et de la Culture essaie de faire quelque chose, mais c'est vraiment insuffisant par rapport à nos sites touristiques. Et tout à l'heure, c'est un média international qui parle de
l'habitat Koutamakou,
de l'habitat Koutamakou, que nous appelons communément les cases Tamberman. Mais c'est un média international qui en parle. Mais nous-mêmes, lorsque nous allons sur ce site-là, qu'est-ce que ça nous révèle? Qu'est-ce que ça nous dit? Il faut que nous prenions conscience du poids de ces sites-là dans le développement économique pour que nous puissions en faire des joyaux. C'est vrai que c'est un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous touchez à ce site-là, vous touchez à un bien international,
oui,
à un bien qui appartient à tout le monde,
oui,
bien que ce soit sur le sol togolais. J'ai eu à parcourir un peu le pays encore il y a quelque temps, mais j'ai essayé de m'héberger dans des hôtels publics. Ça, ce que j'ai remarqué, j'ai pris des images pour demander si c'est des hôtels publics et que l'État met à disposition parce que lorsque nous recevons des touristes ou des invités de l'État, c'est là-bas, logiquement, on va loger les gens et non dans les hôtels privés.
Aujourd'hui.
Mais ça, tous les hôtels publics du Togo sont en état de délabrement avancé. Le dernier où j'ai eu à débourser 40 000 francs pour
la nuitée
pour deux personnes, en fait on était deux, j'ai déboursé 40 000 francs, mais j'ai demandé
c'était quel hôtel?
C'était
un secret.
Non, c'est Sokodé. L'hôtel central de
Sokodé.
De Sokodé.
Chez Sam Diabor. Mais imagine-toi, là où moi j'ai crêché, mais oui. C'est une place multipliée par deux. Mais je me dis, est-ce que nous sommes en Union soviétique?
Ça dit deux lits
collés.
Non, oui, deux lits. Bon.
Deux lits d'une place
qu'on a collé.
Oui, pour lui faire. Puis, pour
pourquoi
lui
on
faire...
a collé? Puisque tu
étais seul dans la chambre.
Non, écoute, je suis obligé de dormir sur une seule lit.
Parce que c'est comme ça l'installation avant son arrivée. C'est pas à cause de lui qu'on va enlever un lit. Mais c'est comme ça, ils ont préparé leur chambre.
Oui.
Ça, j'ai filmé. D'abord, les murs. On ne peut pas héberger quelqu'un là-bas. On est au 21e siècle, quoi. C'est pas possible.
Alors que vous avez payé 20 000 francs la chambre.
Non, 22 000
et 18 000.
Oui. SAS, quand vous... Le climatiseur, ça, disons tout simplement que ça n'a pas fonctionné.
Pas du tout.
Ça date de l'époque
les fenêtres, il y a, puisque c'est des NACO, il y en a qui sont enlevés. Et quand vous tirez un peu le rideau, nuit, quoi. Les toilettes, ça, je dis, c'est pas possible. Le Rock Hotel,
à Tapamé,
je pense que le ministère du Tourisme veut commencer par là. On ne sait jamais. Parce que là, ce n'est pas des centaines de millions qu'il faut débourser pour rénover cet hôtel. Un hôtel de...
Tu n'es pas architecte ou ingénieur.
Ça, par rapport à l'avancement du délabrement de cet hôtel-là. Puisque je l'ai visité aussi. Ça, vous y arrivez d'abord. La clé. Si vous arrivez à sortir la clé de la serrure... Bravo.
C'est déjà une prouesse.
Mais l'eau.
Merci. On ne finira pas d'écouter cela. Et la preuve, le Rock Hotel qui va entrer en travaux a été construit dans les années 70. Mais cet hôtel vient d'être réhabilité il y a déjà une dizaine d'années. Comment est-ce qu'en 10 ans, on soit encore obligé de reprendre les travaux?
On peut aujourd'hui dire un truc. Très simple. Pourquoi ces hôtels-là sont dans cet état?
Alors justement, pourquoi?
Parce que les autorités de ce pays-là, qui visitent ces hôtels-là, ils vont s'en payer.
Ils ne payent pas.
Donc ça, c'est l'ancien temps. Ça a changé.
Oui, mais ça a changé justement parce que on cherche les moyens pour les rénover. Mais les gens, ils vont avec leur famille et tout, ils ne payent pas. Les responsables, les directeurs de ces hôtels-là, on me dit,
Sam Diabor, je suis malheureux pour toi que l'hôtel central de Sokoré soit dans cet état tel que Eric et Isidore en parlent.
Oui, c'est pas parce que je suis de la région que je vais faire dans la langue de bois. Eric ne pense pas si bien dire quand il décrit le calvaire qu'il a vécu à l'hôtel central de Sokodé. C'est une réalité. Parce que moi, il m'arrive parfois, quand je suis à Sokodé, je n'héberge pas à la maison, mais je dors là-bas. Et figurez-vous que parfois, même, j'ai été surpris, même qu'il a fait un peu de retenue. Parfois, les rideaux ne sont pas, sont datables par le carbone 14 au niveau. Non, ça c'est sérieux.
Il y a de la moisissure.
Je vous parle de ce qui est réel à l'hôtel central.
Oui.
Et lorsque il s'était agi de la FOPAT région centrale, le président de la République devrait arriver. On ne savait pas où est-ce qu'il... Parce qu'il devrait rencontrer les chefs traditionnels de la région.
Oui.
On hésitait. Est-ce que c'est à l'hôtel central? C'est dans un autre cadre qu'il va les recevoir? Et figurez-vous, Eric parlait de climatiseur, mais dans le grand hall de l'hôtel central, à l'époque, il n'y avait pas de climatiseur. Il n'y a pas de climatiseur. Il y avait des ventilos qui étaient couverts de toiles d'araignée, de poussière, et c'est dans la nuit profonde que des climatiseurs, des armoires sont arrivés. J'étais là. Sont arrivés pour être installés. Parce que jusque-là, on se demandait, est-ce que le président va recevoir les gens là-bas ou pas? Et moi, je pense que quand les choses se passent comme ça, on n'a pas, ça ne donne pas envie aux touristes de visiter des localités. Alors que, logiquement, on a parlé de sites Koutamaku, de maisons ou des autres. Oui. Il faut d'abord faire la promotion du tourisme domestique. Le tourisme domestique, quand il est mieux valorisé, quand il est mieux promu, ça attire les gens à l'international. Et c'est comme ça qu'on identifie des sites pour en faire des patrimoines de l'UNESCO. Aujourd'hui, on parle de cascade à couloir. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le débat qui s'est engagé entre le député Obokoubo Soleil et le ministère, où c'est un individu qui se retrouve natif du milieu qui était obligé d'aller réfectionner la piste pour accéder au site. Et malheureusement pour lui aussi, il prenait de l'argent pour des gens qui viennent visiter, alors que c'est un bien de la localité ou du pays. De la commune. Ne peut pas, voilà, de la commune. On peut peut-être discuter avec le ministère du Tourisme et voir comment ça va se passer. Le ministre Lamadoku, on ne peut pas tout mettre à son actif parce qu'il a hérité d'un système qui est déjà en décret.
À son passif.
Mais laisse-moi te dire. Une petite anecdote.
Oui.
Quand le ministre Lamadoku est arrivé, il a fait une tournée dans les hôtels publics. À son retour, il a décidé de changer les directeurs de ces hôtels-là. Ma foi, jusqu'aujourd'hui, il en reçoit des coups. Tout simplement parce que il a demandé de changer des choses. Même les lits, Isidore en parlait tout à l'heure. Vous savez comment ça se passe? On achète le sommier à part, on achète le cadre à part, on achète le chevet à part, et tout ça là, facture au nom de l'hôtel.
Oui, t'as dit que, Eric, il y a parfois même, il y a des subventions de l'État pour les hôtels publics. Mais ça dit que ce qui se passe, c'est un problème de gestion. Et voilà. Tu parles bien quand tu dis que le ministre a décidé de changer la tête. Mais aujourd'hui, ça a été changé, je crois, avoir suivi un appel à candidature pour la gestion de l'hôtel Cara. L'hôtel Cara. Oui. Il n'y a pas que l'hôtel Cara, il y a l'hôtel central, l'hôtel 38 à Palimé. Les gens sont allés là-bas pour le séminaire gouvernemental. Le bâtiment même repousse les gens qui sont. Parce qu'il y a une humidité, il y a des moisissures qui s'installent déjà.
Et
donc, si on a commencé par
l'hôtel, je vous comprends, mais justement, Lamadoku, il a hérité d'une situation pas du tout rose, mais justement, le propre du ministre. Oui. C'est de changer les choses. Ça fait 2 ans et demi qu'il est là, et Isidore, on attend de lui qu'il change. Je ne vois pas comment un ministre de la République, sur le rapport d'évaluation à lui dressé, décide de changer les directeurs des hôtels et que les gens s'opposent à lui.
Qu'est-ce que le ministre peut? Est-ce qu'il a des marges de manœuvre contre
un
système préétabli? C'est ça le problème. C'est ça le gros problème. J'étais allé à Palimé, j'ai vu qu'on a changé
la
clôture. C'est passé à l'intérieur, quelque chose s'est fait, mais ce qu'on a fait,
si
rien n'est fait, je ne sais pas.
Parce qu'entre temps, le gouvernement,
peut-être ce sont des palliatifs. Il faut aller plus loin que ça. Je n'ai pas visité, mais je voulais encore revenir sur
Koutamaku.
Mais ça a inspiré un architecte de grand nom, l'architecte Rangbonon.
Togo.
Oui, Rangbonon du Togo. C'est lui qui a. C'est ça qui est le BOAD.
Ouais.
Ah, oui.
C'est vrai ça. La BOAD, le siège, est l'inspiration du site Koutamaku. Il y a même quelqu'un qui a fait une réplique du site Koutamaku en bordure de mer.
Santa Maria.
Mais là aussi, ça a besoin d'entretien parce qu'avec les pluies, puisque c'est de l'argile. Ça est en train
Isidore disait que le ministre ne peut rien contre les systèmes. On a vu des ministres qui sont arrivés et qui sont en train de réinventer des choses. Quand on prend le cas de Kokoroko, par exemple,
on va y arriver.
Maintenant, le risque pour ces hôtels publics-là, c'est que quand vous arrivez à Sokodé, c'est des gens privés qui font de jolis hôtels. Et désormais, quand les gens arrivent là-bas, les gens préfèrent aller dormir dans ces hôtels où il y a. Figurez-vous que l'hôtel, ça n'a même pas de piscine. Il n'y a pas de piscine.
Ce qui crée un manque à gagner à l'État.
Bien sûr.
Merci. On va se souvenir quand même qu'on continue. Toujours avec Lamadoku.
qui vient de lancer un appel à intérêt pour la réalisation de mosaïques et de fresques murales dans quelques quartiers de Lomé. L'Union nous en parle. Eric?
Oui, c'est un appel pour la réalisation de mosaïques et de fresques murales. Et donc, c'est lancé depuis hier. Et donc, ça va faire un mois. Donc, la date de clôture, c'est le 23 juin. Et donc, après, il y aura la proclamation des lauréats. Oui. C'est le 30 juin que ça va se passer. Et donc, le thème général, c'est culture de l'union. Donc, mm-hmm. c'est ça la thématique. Hein, pour les
culture de l'Union.
Voilà.
Merci. C'est fresque. On envoie autour de l'Université de Lomé. On envoie à l'aéroport. On envoie également autour du Palais des Congrès. Dans les grandes villes du monde, quand vous allez, il y a de ces fresques-là. Il y a même de ces graffitis qui sont devenus célèbres dans le monde entier. Voilà. On verra après dépouillement les artistes qui seront retenus et les fresques qu'ils auront réalisées dans tel ou tel quartier. Nous continuons donc avec quelques réalités, voire des polémiques dans le monde de l'enseignement ici et là. Et commençons par cet article qui m'a personnellement intéressé, l'enseignant que je suis resté. Eric,
oui.
Ton journal L'Union écrit à la page 7 « Quand la scolarisation à 2 ans n'a pas les effets escomptés
oui. ».
Et l'article rappelle à bon escient que la scolarisation précoce est toujours illégale au Togo. Hein. C'est à 5 ans révolus, voire 6 ans, que l'enfant doit aller à l'école, au CP1. Mais c'est une réalité. Peut-être nous-mêmes, ici, dans ce studio, nous avons mis nos enfants déjà à 2 ans dans les jardins, à 3 et 4 ans en classe de CP1. Et l'article dit qu'au minimum, les avis sont partagés sur les résultats d'une telle pratique. Eric.
Oui, bien sûr. Ça, il faut juste prendre les nouvelles réformes de l'enseignement au Togo qui demandent que si l'enfant n'a pas 10 ans révolus, il ne peut pas passer le CPD. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que les gens ont commencé par envoyer leurs enfants à l'école à partir de 3 ans, 4 ans. On les accepte parce que quand tu as 4 ans, tu commences le CP1, donc logiquement, à 10 ans, tu peux passer le CEPD. Or, ce qui est, c'est que c'est 6 ans, 5 ans révolus, 6 ans normalement, que l'enfant doit commencer le CP1. Donc, 4 ans, c'est le préscolaire 1, après, il y a préscolaire 2, avant que l'enfant ne commence le CP1 à 6 ans. C'est ce qui est recommandé. Vous prenez des enfants qui passent rapidement. Déjà à 9 ans, 8 ans, 9 ans, dit l'enfant, ils sont CPD, tout le monde applaudit. Mais quand vous suivez bien ces enfants-là, après le BEPC, ils sont bloqués.
Pas forcément.
Ils sont souvent bloqués. C'est ce que révèlent des études. Et tout simplement parce que il n'y a pas un suivi. L'enfant emmagasine tellement de choses qu'à un certain niveau, il est bloqué. On a mené cette enquête-là. On a fait parler des parents. Ceux qui ont mis leurs enfants très tôt à l'école, ceux qui subissent après. Après le BPC ou le bac. C'est difficile pour ces enfants, pour la majorité, de continuer. Parce qu'ils sont bloqués intellectuellement.
Merci. Sujet intéressant, Eric. Sujet intéressant, parce que à l'école, il y a l'âge physique de l'enfant, il y a l'âge psychologique, et puis il y a l'âge intellectuel. Ceux qui ont décrété que l'enfant entre au CP à 5-6 ans, c'est des études avérées. Le résultat, tout le monde n'étant pas génie, on met les enfants très tôt à l'école, ils ont le CPD à 9 ans, à 10 ans, mais psychologiquement, sociologiquement, Isidore, il y a des dégâts après.
Pas du tout.
Si
il a un cas.
Non. Est-ce que ça fonctionne?
Oui, vas-y,
je suis un cas avéré.
Oui.
Mais je suis un cas avéré. Ça, moi, je voyais mes grands frères et mes grands sœurs aller à l'école, mais je me suis invité à l'école.
Oui.
à l'âge de 3 ou 4 ans.
Oui. Mmh.
J'ai jamais échoué pour avoir mon CPE en 74.
Oui.
Et en
74,
on y va.
Oui, oui.
En on y va.
Oui, oui. Mais j'ai jamais échoué.
Oui,
et après, jusqu'à classe de 3e,
oui.
Il y a ces d'autres facteurs sociaux, économiques qui m'ont poussé à aller à l'aventure. Sinon, je devais avoir mon BPC et après 4 ans, sans échouer.
Non, ben,
mais. Non, écoute.
On va l'écouter.
Eric, on va l'écouter. Je donne pour preuve ma fille, ma propre fille.
Oui.
Qui a eu son baccalauréat à 16 ans. Elle n'a jamais échoué jusqu'à avoir son master 2. Sans aucun problème. Je prends encore mieux encore ma nièce, à qui on a sauté la classe de. Elle a fait le CP1, CP2. Elle était allée à CE2. Et après CM2, on l'a passé en. Quoi appelle-t-on candidat
libre.
Elle a réussi. Elle a eu son bac à 14 ou 15 ans.
Oui.
Elle fait la médecine. Elle n'a jamais échoué.
Vous êtes une famille bénie.
Mais toi aussi, parle
S'il vous plaît.
Il ne faut pas étouffer les talents.
L'école moderne telle que nous la pratiquons, c'est pas nous au Togo qui l'avons inventée. Jusqu'à ce jour, à moins que je me trompe, en Allemagne, en France, dans les grands pays qui nous ont qui ont exporté leur système chez nous, tu n'entres pas au CP1 en France si tu n'as pas 5 ans révolus, 6 ans. Même chose un peu partout.
Oui, je crois que le système là, il est en train d'être mis sur pied maintenant. Parce qu'il fut un moment où vous avez parlé de 2 ans maternelle, grande section, petite section, d'abord grande section.
À Bovie, à Boga.
Voilà. Et du coup, les enfants se retrouvent au CP1 à 4 ans. Et 4 ans, quand on commence le CP1 à 4 ans, c'est qu'à 10 ans, on est en 6e. On est d'accord. Donc, ça ne pose pas de problème. Un enfant qui a commencé le CP1 à 4 ans, à l'époque, moi, j'ai des cas chez moi à la maison, 2 cas d'ailleurs, qui n'ont jamais été bloqués après le BPC. Et il y a une qui est à l'université, l'autre qui est en première, ça se passe normalement. Mais je pense que quand l'enfant commence beaucoup plus tôt, les parents sont obligés d'envoyer les enfants à 2 ans à l'école. Quand l'enfant a très, très tôt la parole, vous allez voir qu'il y a des enfants qui s'expriment vite. Il y a d'autres qui ont un retard dans le langage. Et quand ça se passe comme ça, vous êtes obligé d'envoyer votre enfant à l'école. Et généralement, les enfants précoces là, ils sont beaucoup plus littéraires, le plus souvent. Ils sont littéraires, c'est-à-dire qu'ils ont la parole et ils ont des petites difficultés dans les mathématiques, dans les sciences physiques. Peut-être la compréhension de ces aspects-là.
Tel n'est pas le cas pour ma nièce.
Mais au même moment, je pense que ça devrait être en 2007 ou 2008, il y avait une loi où pour faire passer son enfant au CPD qui a moins de 10 ans, il fallait une autorisation du ministre.
Voilà. Oui, même
après ça, maintenant ils ont un
secondaire. Voilà. Oui, même au campus. Même au campus.
Une anecdote. À un moment, il y avait une polémique. Ouais. Un parent nous avait saisi et je m'étais adressé au ministre Tibus. Sorry, Toki et
oui,
ça.
À l'époque.
À l'époque, j'étais ministre en charge de
l'éducation.
J'étais allé le voir avec notre collègue Andrea Magni et il nous a expliqué, preuve à l'appui, que ce n'est pas plaisir. Que ça a été fixé, que c'est des études sociologiques qui ont déterminé l'âge. Et que si les parents demandent, le gouvernement va accorder l'autorisation, mais qu'il y a risque qu'à un moment ou à un autre, l'enfant soit bloqué.
Oui, c'est vrai qu'il y a des talents que Gidon le dit, mais ça, on ne peut pas généraliser. Ça
non, non.
L'idéal, 5 ans, l'enfant commence le CP1, c'est raisonnable que l'enfant, il évolue conformément. Mais si, par contre, s'il y a des talents, l'avait autorisé, on peut accorder une autorisation à un parent.
Oui,
donc
mais combien sont ces étudiants à qui on a demandé d'avoir une autorisation parentale avant d'être inscrit au campus. Parce qu'ils ont eu leur bac à 16 ans.
Oui.
Il y en a plein, allez sur le campus.
On en dit ce qu'on vient pas. Ce qu'on est en train de dire, vous êtes en train de parler des cas particuliers. Mais là, il y a une étude qui a été menée. Et je vais vous donner un exemple. Vous allez vérifier. dans les pays scandinaves, les enfants ne commencent pas l'école avant 8 ans. Vous avez 3 ans, on peut vous envoyer à l'école. Mais tout ce que vous faites, c'est des jeux. Vous, vous arrivez, vous vous amusez, vous faites tout ce que les enfants font au maternel.
Ça, c'est des pays
mais,
avancés. Hein.
Oui, si on... ça c'est alors, des pays avancés.
Isidore, maintenant... Si les pays qui sont plus avancés que nous respectent ces minima d'âge, alors est-ce que c'est nous qui sommes plus intelligents, c'est nous qui avons plus de... c'est nous qui sommes plus de génie que... Un auditeur nous confirme qu'aux États-Unis, tu ne peux pas entrer à l'université si tu n'as pas 18 ans révolus. Et j'ai cité des exemples de l'Allemagne que je connais, je suis germaniste, de la France et de nombre de pays européens et même un peu d'Asie.
Mais
là, il y a un âge minimum.
Là, il y a un paradoxe. Parce que si vous réussissez au bac, quand vous vous donnez la bourse, on donne aux plus jeunes.
Mais non, au plus jeune, sur quel âge,
quel âge? Oui, c'est ça. Mais
non,
c'est
non.
Il y avait ce critère. En tout cas,
le propre du
qui
débat
a, qui a éliminé les deux caillards de derrière.
En tout cas, le propre du débat, c'est que cela suscite la réflexion. Et l'article dit justement que les résultats sont partagés. Nous en parlons. Peut-être que c'est l'occasion pour le gouvernement d'affiner ces études-là et de nous situer par voie autorisée. Quelle est la solution idéale?
Quand tu lis l'article, il y a un directeur d'une école privée. Il y a des parents qui ont dit clairement, par rapport à leur expérience, ce que ces enfants-là sont devenus quand ils ont commencé l'école très tôt. Il y en a même un qui, c'est juste après le CPD, en sixième, il a échoué tout simplement, il dit à ses parents, mais ici les cours sont trop élaborés, je n'arrive plus suivre le rythme. Déjà en sixième, il faut qu'on fasse extrêmement attention. On ne dit pas que ces cas-là n'existent pas, des génies comme vous deux.
Toi-même, tu en as à la maison.
Oui, mais c'est
en tout cas,
pas une raison propre pour généraliser.
Tous ceux-là qui en font la promotion ont envoyé les enfants à bas âge.
Non, oui, c'est... une chose est d'envoyer l'enfant à bas âge, mais quel est le résultat 15, 20 ans, 30 ans après? Nous aurions aimé avoir des témoignages.
Moi, je n'en vois pas. Des témoignages, j'en ai à profusion.
Souffrez qu'on évolue. Il y a cet autre article,
général.
Il y a cet autre article du confrère L'Audience, qui écrit « Enseignement supérieur, de nombreux étudiants africains francophones bloqués à Ottawa, au Canada. » L'article dit que des étudiants francophones qui ont été acceptés par des universités du Québec, se voient systématiquement refuser un visa de séjour d'entrée sur le territoire par le Canada. Et l'étude montre qu'au moins 72% des étudiants africains sont dans cette situation préoccupante et ne peuvent pas accéder à leur établissement d'enseignement. Et la situation touche, selon un magazine écouté sur RFI hier, cette situation touche particulièrement des jeunes ressortissants des pays comme l'Algérie, le Sénégal, la Guinée, la République du Congo. Mais c'est vrai que le Togo n'est pas cité, mais nous retenons l'article. C'est pour attirer l'attention des parents. Si on doit envoyer son enfant dans une école supérieure, ici ou ailleurs, il faut encore bien s'assurer des conditions. Sam Diobo, imagine qu'un jeune de 18 ans, voire même moins, qui se retrouve là-bas au Canada, mais qui se voit refuser l'entrée sur le territoire du Canada.
Non, moi je pense que tout part de ces agences-là qui pilulent aujourd'hui dans tous les coins de rue où on écrit, vous allez voir une grande enseigne, où c'est écrit « Immigration au Canada, immigration au Canada, à étudier au Canada ». Alors que de toutes ces agences-là, très peu sont fiables et sérieuses. Et donc quand un enfant s'adresse à une telle agence qui n'a pas de répondant sur le lieu où l'enfant doit immigrer, ça pose un problème. On vous fait de faux papiers, peut-être non, même non, on négocie
c'est
les
pas de faux papiers. Hein, les pays qui sont cités ici, là, ces pays que je reprends, l'Algérie, le Sénégal, la Guinée, la République du Congo, on ne peut pas faire le procès que ces pays, ces agences ont fait de faux papiers, oui, parce que le Québec reçoit la demande, mais c'est le Canada qui refuse l'entrée au territoire. Tu sais qu'il y a, il y a le Canada, mais il y a également la province du Québec.
Oui, mais il y a aussi de ces universités-là auxquelles parfois certaines autorités n'accordent pas assez de crédit. Sinon, cela ne s'explique pas. Comment vous inscrivez votre fils dans une université? Tout est normal, tout est clair, et qu'arrivé, on refuse de lui donner le visa. Déjà, même le visa devrait se prendre avant que l'enfant ne parte.
Oui.
Pour partir, aller étudier, on ne donne pas un visa court séjour. Mmh. On donne un visa long séjour d'une certaine durée. Mmh. C'est quand vous arrivez sur le territoire, vous finissez une première année, peut-être que vous ne pouvez pas revenir dans votre pays pour récupérer un autre visa, qu'on vous fait le titre de séjour sur place. Mmh. Et donc, moi, je pense que déjà, au départ des pays, les pays de départ, dès qu'on vous donne le passeport, il faut voir quel type de visa vous avez. Si vous avez un visa à long séjour de 3 mois, ça pose un problème. Il faut déjà revendiquer et s'interdire à ce que l'enfant aille.
Avis aux parents, c'est bientôt le bac. Avis aux parents, avis aux étudiants. Assurez-vous bien de la situation du pays dans lequel vous voulez envoyer vos enfants ou bien les jeunes veulent étudier pour se prémunir de telles situations qui risqueraient vraiment d'être désagréables. Isidore ?
Non, j'abonde dans le même sens que Sam aujourd'hui, au moins. Parce que, tu sais, il y a de nos universités là qui ont fait des accords de partenariat
oui.
avec des universités européennes, canadiennes et autres, mais qui n'ont pas honoré leur engagement. Et quand on vérifie après, et quand tu t'adresses à une agence qui a des voies un peu détournées pour vous livrer des documents, mais ne soyez pas étonné que après vérification, vous soyez bloqué. Je m'en donne pour preuve. Les États-Unis, on a émis des visas du Ghana dans une ambassade qui n'existe pas, qui n'est pas légalement reconnue.
Oui.
Mais pourquoi ça nous étonne?
Merci.
Il y a des faussaires
donc,
partout.
Prudence, prudence. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce mythe-là, la célébrité, la renommée des universités européennes, américaines, alors que autour de chez nous, ici en Afrique, il y a des pays qui acquièrent de plus en plus d'expertise, le Maroc, la Tunisie, et même le Sénégal, la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le Togo? Nous avons quand même des écoles.
À l'époque, on avait des
écoles publiques et privées qui font un travail assez admirable, et nous pourrions inscrire nos enfants chez nous ici au Togo ou dans les pays voisins. Cela ferait de l'économie pour les familles et également les enfants qui ne sortiraient pas trop de leur ère socio-culturelle.
Ça, tu connais le phénomène aujourd'hui.
Non, dis-nous.
C'est que lorsque vous allez à un entretien d'embauche, vous arrivez de quel canton?
Ottawa.
Mais tout de suite...
Cambridge.
Oui, on vous prend Oxford, au détriment Oxford. De celui qui a fait tout son cursus au Togo. C'est dommage.
Chez nous ici.
Chez nous. Mais il faut regarder autour de nous, même dans le gouvernement, dans l'administration, un peu partout. Il faut voir. Mais ceux qui arrivent de là sont prisés. C'est pour ça que tout le monde veut y aller.
Nos autorités ont envoyé. Quelle est l'autorité qui n'a pas envoyé ses enfants en Europe? Ou aux États-Unis ou
c'est la tendance. Alors qu'à l'université de Lomé, c'est de bons cours qui sont donnés là-bas. Moi, je donne l'exemple de Izika. La formation que donne Izika n'a rien à envier à la formation de l'ESJ, soit Lille ou Paris. Les cours qu'on reçoit à Izika, parce que moi, j'ai fait des cours à distance à l'ESJ, et quand je compare mes cours à l'époque, Dieudonné faisait encore le master, Dieudonné Kourou-Lakina. Quand je prends les cours, c'est pratiquement les mêmes cours. Mais sur le marché de l'emploi, lorsque vous y arrivez, on va dire non, tel master a été obtenu dans telle université. Et on a tendance à valoriser les gens qui viennent de l'extérieur, aux gens même qui sont formés ici. Alors que sur le terrain, on a pratiquement les mêmes connaissances. C'est justement la tendance qui fait que les gens ont envie d'envoyer leurs enfants, surtout que les boulots sont difficiles à trouver.
Pour cette tendance-là qui est une réalité, malheureusement, douloureusement, Eric a eu le courage de le dire, même quand on regarde le gouvernement, on a l'impression que même au grand sommet, on a tendance à priser ceux qui ont fait les universités étrangères. Quand il y a des contrats, même en matière de communication, le gouvernement privilégie toujours des agences venues d'ailleurs, alors que c'est nous qui vivons ici au pays au jour le jour. Nous ne cesserons jamais de le dire. Et à ce niveau, il faut rappeler que c'est le gouvernement togolais qui accueille depuis hier la cérémonie d'installation qui doit préparer le 9e congrès panafricain. Le lancement. Qui doit préparer le 9e congrès panafricain, Lomé 24. Comment on va se dire panafricaniste? Et si on ne se fait pas confiance soi-même dans son pays ou bien dans les pays africains et qu'on pense toujours que le génie, c'est ce qui vient de l'extérieur. Je voudrais bien... Il faut que ce message aille à ceux qui préparent ce 9e congrès panafricain que nous allons accueillir en 2024.
C'est un sujet à débattre ou bien...
Non, c'est juste une pique. C'est juste une
invite. Mais revenons... J'y étais.
Vous voulez dire au lancement?
Oui.
Ok, un petit mot là-dessus?
Non, en fait... Au début, je ne prenais pas tellement ça au sérieux, parce que quand vous hésitez, l'histoire du panafricanisme qui a commencé depuis 1900 aux États-Unis, mais c'est seulement c'est deux sur les neuf, sur les huit préalablement tenus, c'est l'Afrique n'a fait que deux. Premièrement, en Afrique du Sud, ce qui n'a pas marché, et c'est Kwame Nkrumah qui avait relancé. Le All African.
Non, sur le principe, nous sommes d'accord. Justement, l'adresse que nous faisons aux autorités, on ne peut pas préparer un congrès panafricain si on ne se fait pas confiance à soi-même, à ses compatriotes du pays ou des pays africains, et que pour le PND ou bien pour la feuille de route gouvernementale, on fasse toujours à des experts venus d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs. Oui, c'est l'adresse que nous faisons.
Oui, permet que je puisse continuer. Parce que j'ai suivi avec attention le développement de Doudou Dien, le Sénégalais.
Au moins, il est africain.
Il est africain. Mais tous ceux qui ont fait la communication, sont des Africains. Et il nous a dit justement d'éviter ce piège. Le piège de racialisation du concept panafricain.
Ouais.
Que de résister au concept d'identité, puisque le panafricanisme est large et universel. Il est allé jusqu'à dire que le tango, mais c'est un batou, bantou, que c'est des Africains.
Oui, mais ce que je voudrais, c'est que le panafricanisme commence par la prise de conscience du sentiment que nous nous fassions confiance plutôt que de continuer à développer ce réflexe d'anciens colonisés qui allons toujours piécher les génies de l'extérieur. Nous avons du talent, nous aussi, en Afrique.
Oui, c'est ce que je dis.
Oui.
Au début, on croit que le panafricanisme concerne seulement le continent africain.
Pas seulement le continent africain, mais... L'Amérique du
non
du
la, sud ça, on, aussi, la diaspora on les mettait dans également. La diaspora jusqu'à ce qu'on a dit que c'est le sixième la sixième région
d'Afrique.
C'est un concept qui a été développé.
Merci.
Et il nous demande de sortir de ça parce que il dit que c'est ce que les colons on fait pour créer des concepts pour nous diviser et nous opposer.
Nous allons revenir sur le sujet avec des voix vraiment autorisées. Mais revenons toujours dans le monde de l'enseignement supérieur avec ce sujet d'actualité qui fait polémique depuis quelque temps et qui porte sur le professeur Roussi qui a été affecté de l'université de Lomé à l'ENS à Takpamé. Ça fait débat, pour ne pas dire polémique. La question a été même débattue le 1er mai dernier. C'est le CEST, le syndicat de l'enseignement supérieur du Togo, qui seul avait mis le 1er mai à l'occasion, à profit pour débattre du sujet. Et le mardi dernier, pendant que je n'étais pas là, vous avez débattu le sujet avec le concerné même qui était au plateau. Et aujourd'hui, c'est le confrère Vision d'Afrique qui produit une longue interview du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Iou Majesté Ouateba. Alors, sur l'affectation du docteur Wunsi, les réclamations que posent les CEST, les cours en ligne, quand on connaît le style de Majesté Ouateba, vous doutez bien qu'il a répondu à toutes ces questions. L'interview est dans les colonnes de la Vision d'Afrique. Sam Gobo, c'est un sujet que tu dois connaître un peu.
Oui, non, je ne l'ai pas personnellement traité dans mon média, mais j'ai suivi un peu comment cela se passe. J'ai lu aussi les informations, je suis allé fouiner également. Le monsieur Rounsi Haï, je crois c'est son nom, est un agent de l'administration publique affecté au ministère des enseignements supérieurs. Enseignement supérieur, il y a l'université de Lomé, il y a l'université de Kara, il y a l'école nationale supérieure d'Atapame.
Qui est aussi une école aussi d'enseignement supérieur.
Mais pas universitaire.
Oui, pas universitaire. Voilà. Mais il relève de l'enseignement supérieur, il ne relève pas de l'université. Parce que moi j'ai vu le décret, je crois que c'est en 2014, il n'est pas le seul. Il y a un certain nombre qui ont été intégrés à l'administration publique et détachés au ministère des enseignements supérieurs. C'est ça. Donc à ce titre, ça veut dire qu'il pouvait être muté dans n'importe quel institut d'enseignement supérieur. Maintenant, son titre de syndicaliste et ayant la responsabilité du CEST fait obligation à l'autorité de le garder à son poste parce qu'il est le président en exercice du CEST. À ce titre, on pouvait le garder.
Secrétaire général
du CEST. Mais là où je ne comprends pas l'attitude des autres membres du CEST, en réalité, quand vous avez un premier responsable comme ça, qu'on mute et que vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas au détour d'une conférence débat que vous allez régler le problème. Vous êtes syndicaliste, il y a des méthodes dans le syndicalisme pour amener votre vis-à-vis à accéder à vos revendications. Mais aujourd'hui, s'il est esselé au point où il est obligé de faire le tour des médias pour expliquer son cas, ça veut dire que les autres membres de son syndicat ne le soutiennent pas.
Non, quand
vous êtes syndicaliste.
C'est ton constat.
C'est mon constat. Quand vous êtes syndicaliste et qu'il y a une situation, on a vu le Saint-Faute où des gens, des membres du syndicat du Saint-Faute ont été mutés à des postes, mais il a fallu des revendications pour qu'on abroge les affectations de ces gens-là. On était dans ce pays. Et donc, ça veut dire que vous êtes leader d'un syndicat. À un moment donné, on vous affecte. Personne ne dit rien. On dit on a fait conférence de bas. Au final, ça veut dire que chacun veut préserver sa pitance. Et les gens ne sont pas prêts à s'en soucier, à son combat. Ensuite, quand il est venu sur Canal FM, je l'ai suivi, il dit non, à l'université, voilà ce qu'on paye. Et à l'ENS, voilà ce qu'on paye. Ils disent que
il n'a pas donné les montants.
Il n'a pas donné les montants, mais il a dit que c'est pratiquement le double ce qu'on paye à Atapame, c'est le double qu'on paye à l'université.
Non, plutôt le contraire.
Bon, enfin, ça dit que c'est la moitié de ce qu'on paye à Lomé, voilà, qu'on paye à Atapame. Et donc, quand voilà, il pose ce problème-là, ça dit que ça fait tic dans la tête des gens. Donc, ça veut dire qu'il privilégie beaucoup plus ce qu'il gagne à la formation qu'il doit. Non, attends, tu auras la parole. Laisse-moi continuer mon développement. Donc, moi, je pense que Et le syndicaliste qui est aujourd'hui obligé, moi j'ai jamais vu ça nulle part au monde. Vous êtes syndicaliste, ça veut dire que vous êtes ensemble, vous devriez être fort ensemble. Mais quand vous seul vous baladez, vous allez sur une radio, vous expliquez.
Merci. C'est quand finalement en tout cas, pour revenir à l'interview, Your Majesté, qui dit que l'ENS est une école d'enseignement supérieur. Donc n'enseigne à l'ENS que des professeurs de l'enseignement supérieur. Et puis lui dit tous les enseignants de l'ENS passent les mêmes grades du CAMES que ceux des universités. Alors, pour revenir sur les motifs de l'affectation, il dit que c'est une affectation dans le sens du droit, dans le sens des principes de la fonction publique. Une affectation purement administrative pour des services de service. Et il dit que M. Rounsi, comme bon nombre d'enseignants du supérieur, n'arrive pas à faire les 240 heures statutaires par an. Et ils sont nombreux. Près de 90% des enseignants supérieurs ne font pas leur volume horaire de 240 heures l'année, ce qui constitue un manque à gagner de 3 à 6 milliards de francs CFA, et que si quelqu'un est sous-employé à l'université, on peut l'envoyer partout où besoin sera. Isidore.
Non, je suis d'accord sur l'affectation, mais sauf que la loi n'autorise pas que l'affectation puisse éroder les avantages ou même le salaire de celui qui est affecté. Là, on parle d'affectation punitive.
Et à ce niveau-là, le ministre dit que le salaire, monsieur Rounsi garde son salaire, c'est seulement c'est les primes. C'est les primes qu'il percevait à l'université qui seront retirées s'il va.
Mais là, une fois qu'il arrive au CNS, tout de suite, tous ces avantages-là sont partis. Et donc, s'il y a d'autres avantages au niveau
de l'ENS,
il les prend. Mais ça veut dire que c'est vrai. ça donne l'impression que c'est une affectation punitive. Parce que là, tu es à 1 500 000, voire 2 millions, et 1 800 000. Et là, tu descends à 600 000. C'est le tiers pratiquement. Donc, je crois que... nous l'avons dit avec M. Roussy la dernière fois, tout ce qui doit primer, c'est le dialogue.
Mais il a dit que les portes sont
fermées. Maintenant, si, oui.
Et c'est sur les médias, il va trouver...
Non, mais c'est comme le disait Sam tout à l'heure, ce sont des syndicalistes. Vous savez, le gouvernement a initié un dialogue entre les gouvernants et les syndicats.
Le dialogue social,
là, doit primer. Pourquoi on va dire que les portes sont fermées? Quel que soit le syndicat, les portes ne doivent pas être fermées.
Mais concernant l'autre point, oui, les primes ou bien que le président de la République a versé.
Oui, justement, j'allais y venir. La question a été posée à IOU sur les revendications relatives à la cessation des cours en ligne, au paiement des droits inhérents à l'augmentation des salaires. Par le président de la République à hauteur de 5% depuis janvier 2020 et de 10% pour compter de septembre 2022. Et également le versement des retenues de 4 mois de revalorisation opérée au titre de l'accord du 6 août 2019. Eh bien, IOU répond que toutes ces revendications ont été satisfaites pour l'enseignement supérieur à 100% depuis 2020. Et pour précision, il dit que les mesures sociales du président de la République visent les couches défavorisées et pas les enseignants du supérieur qui ont déjà eu des avantages conséquents en leur.
Là, moi, je ne comprends pas. Parce que il a été dit que les ressources ont été affectées aux universités et que l'université de Kara a reconnu avoir ces ressources. Si c'est affecté, pourquoi ne pas les dispatcher?
Et avait déjà payé une partie. C'est ce que M. Roussy nous a bien dit la dernière fois.
En tout cas, c'est l'interview que IOU a accordée à la Vision d'Afrique et qu'on va lire. Un peu dans ce sens, le journal L'Audience aussi écrit, parlant toujours de l'enseignement supérieur, pour ce qui est du respect des charges statutaires, et là c'est Kokoroko qui parle lors d'une réunion de la communauté académique sur le respect des charges statutaires en vue d'une gestion optimale, efficiente et efficace des ressources humaines, matérielles et financières. Kokoroko dit, à qui veut l'entendre, que le manque de fermeté sera dorénavant perçu comme de la duplicité et la loi sera appliquée, a dit Kokoroko. Voilà, c'est le tour de ces informations que nous vous donnons. Si on veut en savoir davantage, les journaux sont là, les sites d'information officiels sont également là. On ira les trouver. Et il est 11h59, mais très rapidement, pour parler des mines, il y a le journal Le Médium qui titre aujourd'hui un partenariat stratégique pour l'exploitation du manganèse de Nayega au Togo. Mais déjà, dans ta version de l'Union du vendredi 19 mai dernier, Eric, ton journal parlait de l'exploitation du gisement de manganèse de Nayega, l'État qui reprend la main et qui s'est entendu avec la société, Keras Resources. Ouais. Tous les détails sont dans le journal. Seulement un petit mot là-dessus.
Oui, en réalité, la société Keras, une société de droit américain, avait le permis d'exploitation du manganèse de Nayega. Et donc, c'est cette société-là qui exploitait, disons, le manganèse. Mais l'État a créé, avec un décret pris en conseil des ministres, la Société togolaise de manganèse. Et donc, désormais, cette société-là, après négociation entre l'État togolais et la société Keras, a le permis d'exploitation du manganèse. Toutefois, la société Keras va continuer par travailler avec la société togolaise de manganèse comme conseil, comme apporteur de marché, etc. Parce que la société Keras a déjà de l'expérience à la matière et a déjà ses clients aux États-Unis et ailleurs. Donc, l'État togolais et la société Keras ont trouvé un accord de gestion et de principe, et ça qui fait que désormais l'État togolais exploitera désormais à 100% le manganèse de Nyanga.
Et dans la foulée, toujours l'Union, dans sa parution d'aujourd'hui, qui parle de cet article-là, c'est la page 4, oui, des réformes majeures envisagées dans le secteur des mines. On n'a pas le temps d'en débattre aujourd'hui, mais dans une émission prochainement. Isidore ?
Non, c'est une très bonne chose que l'État puisse prendre ses responsabilités et créer une société comme on en a créé pour le phosphate. Mais sauf que je reste un peu...
Dubitatif.
Dubitatif, comme d'habitude.
Sur ta faim, sur ta soif.
Non, au fait, pour une bonne raison,
oui.
Comment exploite-t-on le phosphate aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça rapporte à l'État togolais ? Quand... La société de comment vous l'appelez, la société nouvelle
SMPT
nouvelle des phosphates
du Togo
traite avec les Israéliens qui vendent le marché et nos phosphates à l'international. Rien ne nous revient.
Sauf que n'ont pas connaissance des termes du contrat que le Togo a signé avec les Israéliens.
Moi, je souhaiterais que ce soit les Togolais même qui vendent les phosphates et nos minerais à l'international.
Oui, aujourd'hui, on a créé... Je te rappelle, les Togolais se sont appropriés les phosphates avec l'OTP. Mais nous avons fait pratiquement faillite. On a dû aller rechercher des partenaires privés.
Oui, là, tu me rejoins.
Oui.
Mais quelle destinée
c'est-à-dire
sera
que
réservée? Quelle destinée sera réservée à la société?
Il est créé pour les
marginaux. Déjà midi, on ne peut pas...
Si c'est le même sort, si c'est le même sort qui sera réservé,
s'il vous plaît. Juste,
Eric, s'il te plaît,
Dans le
secteur minier. Juste cette information avant la pause. Nous sommes dans la saison des congrès statutaires des partis. Et nous apprenons que le parti... Les démocrates socialistes africains, les DSA, ils tiennent leur congrès le 27 mai à 14h. Ah, c'est une nouveauté, hein? Un congrès d'un parti qui s'ouvre à 14h pour quelques heures dans la demi-journée.
Il n'y a pas de contenu à ce parti.
Non, peut-être qu'ils ont déjà préparé la sauce sur le sol avant de le mettre sur le feu. Donc, deuxième congrès statutaire du parti, les démocrates socialistes africains. Le 27 mai, 23 à 14h, ce sera à l'hôtel Eiwa Land, à côté de l'école Clémence Divine, non loin du siège du parti à Agoué Logopé. Devoir de maison,
je le connais.
Comment identifier ce siège-là pour aller assister au
congrès? Même
le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Eh bien, c'est parti sur les deux numéros, je vous les rappelle, le 22, 21, 33, 74 ou le 91, 36, 63, 75. Vous nous avez suivi sur les rubriques. La parole est à vous à présent. Premier auditeur déjà. Allô?
Allô, bonjour, oui.
Monsieur. Bonjour, monsieur. Allô, monsieur?
Oui.
Oui, je vous...
C'est Martin de Kadambara à Sokodé.
Martin Kadambara depuis Sokodé.
Oui.
Ah oui. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Et je reviens sur le site Koutamaku.
Oui, oui.
Vous avez bien fait de évoquer ce cas. Il y a une image aussi d'un esclave enchaîné fixé sur le marbre au niveau du pont de la limite de la préfecture de Tchadjo et le début de la préfecture de Sotoubois.
Oui.
Donc à ce niveau-là, ils avaient écrit beaucoup de choses concernant le parcours, le convoi des esclaves jusqu'à Agbodrafo.
Oui.
Donc, il y a un rituel sacré qu'ils opéraient là-bas avant d'arriver à Agodrafon.
Oui.
Donc, malheureusement, j'en avais parlé au préfet à l'époque. Et jusqu'alors, rien n'est clair.
Au préfet Matéendou, au préfet colonel Matéendou.
Comment?
Vous avez parlé de ça au préfet colonel Matéendou?
Non, non, c'est avant lui. Avant lui.
Ok.
Donc actuellement, tout est effacé.
Donc, une statue portant un homme enchaîné à la frontière, non, à la limite.
C'est pas une statue, c'est du marbre qu'on a planté à la limite du pont.
Entre Tchaoudou et Sotouboua.
30 km de ce côté en allant à Lomé.
Oui. Heureusement que nous avons un témoin, Monsieur Martin Kadambara, qui pourra indiquer cela au service approprié pour la sauvegarde de cet endroit pour l'histoire.
Au niveau de Aouloso, à 30 km de ce côté en allant à Lomé.
Merci, Monsieur Kadambara.
Oui.
Merci à vous.
Merci aussi, merci.
Je vous en prie. Merci. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Concernant l'affaire du professeur, je pense que quand vous l'avez reçu la dernière fois, il a donné assez d'explications. Mais le point qui me semble un peu bizarre, il avait parlé aussi, aussi bien de ses rémunérations. Bon, vous venez de dire là-bas que lorsqu'il y a affectation, pour que ce ne soit pas, ça ne soit pas, comment dire, qu'on interprète ça pas comme une affectation punitive. Là, la rémunération reste la même. Ce ne sont pas les primes qui peuvent changer ou disparaître.
Le salaire de base reste le même, mais c'est les primes et autres avantages qui peuvent changer selon le nouvel endroit qu'il aura regagné.
Oui, je pense que nous avons bien suivi le professeur Adenepa. Je crois que c'était le mardi également qu'il était là.
Oui.
Il a aussi bien expliqué ce point-là. Et il a préciser que son salaire de base a diminué, je pense, du tiers, à tiers, je pense.
Vous êtes sûr qu'il parlait du salaire de base?
Non. Parce que quand...
Non, l'ami, est-ce que vous êtes sûr que monsieur aussi parlait du salaire de base?
Oui, j'en suis sûr.
Parce que j'ai les témoins oculaires au studio qui apparemment ne sont pas d'accord avec vous sur ce point-là.
Ah d'accord, parce que je pense que quand il disait que de 800 bien 800 quelques millions se retrouvent à 300 000. Je ne pense pas que ce soit uniquement une affaire de prime.
Non, c'est pas pour lui-même. Il avait donné pour son collègue de Cara. Il parlait de son collègue de Cara qui est revenu à 73 000, 63 000, quelque chose comme ça.
Oui, il donnait cet exemple pour dire qu'il se retrouve dans le même cas.
L'ami Johannes, il a donné l'exemple de son collègue.
Oui.
Monsieur Ounsi nous avait donné sa version des faits le mardi dernier. Aujourd'hui, c'est le ministre qui se prononce dans les colonnes du journal Vision d'Afrique. Nous vous donnons également la vérité du ministre, mais il va de soi que les débats vont continuer.
Sauf que je pense que le ministre, en tant qu'intellectuel, j'ai l'impression qu'il veut juste justifier l'injustifiable. Et le passage du professeur, j'ai l'impression que toutes ces explications finalement n'ont servi à rien. Parce que quand on suit vraiment ces explications, on se rend compte qu'il s'agit d'une affectation punitive.
Bien, en tout cas, nous vous donnons l'information sous tous les angles possibles.
Et pour finir,
je
pense qu'il ne faut pas tout le temps dire à l'opprimé, parce que pour qu'il y ait dialogue, il faut que celui qui se sent en position de force accepte le dialogue. Même si celui qui est en position de faiblesse veut le dialogue, c'est celui qui est en position de force qui doit accepter le dialogue. Il ne faut pas tout le temps appeler au dialogue alors que celui qui est en haut ne veut pas ce dialogue.
Là, je suis d'accord avec vous. Au minimum, pour dialoguer, il faut que la volonté soit manifeste des deux côtés, notamment celui qui est plus en position de force. Merci à vous, Johannes. Le témoin qui passe au suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Bonjour, monsieur Fass, c'est monsieur Bekensi depuis ce côté.
Pardon, monsieur?
C'est Bekensi depuis ce côté.
Depuis
ce côté, oui.
Nous vous écoutons.
Je vous dis merci pour l'émission.
Merci.
Vous avez parlé des hôtels. Je confirme ce que votre confrère était en train de dire par rapport à l'hôtel central.
Mm-hmm.
je vis à Sokodé et je vais dans cet hôtel-là, je sais ce qui se passe à l'hôtel central de Sokodé.
Mm-hmm.
Et ce que j'aimerais dire un tout petit peu, c'est que l'hôtel, bien sûr, ça c'est le constat au niveau des hôtels, mais dans toutes les structures étatiques, c'est toujours ça. C'est la même chose partout. Aucune décision n'est prise parce que c'est une chose qui est formatée. Les gens ne sont pas là-bas parce qu'ils doivent être là. Les gens sont là-bas par terme de famille, quoi.
Mm-hmm.
Les gens sont placés là-bas, ce n'est pas leur travail. Ils ne savent pas faire une gestion adéquate de la chose.
Mais ils sont là.
Que ça puisse marcher.
Mais ils sont là, ils refusent de partir.
Il y a un autre collègue qui est en train de dire que le ministre n'a pas de marge de manœuvre. Il ne peut pas. Je vous donne un exemple. Moi, je vous ai toujours dit comment il est un entrepreneur agricole. Vous voyez comment le ministre Bataka a quitté son poste avec tout ce qu'il a mis en place. Ce concept de consommation locale est venu avec le ministre de l'Agriculture, M. Bataka. Mais c'est aujourd'hui qu'on nous ramène encore ça, qu'on nous rappelle ça. Quelqu'un qui est à l'initiative de quelque chose, qui doit le poser, quelqu'un qui doit faire la fondation, n'est pas là pour faire la fondation. Comment voudriez-vous maintenant que le bâtiment puisse être solide?
Mm-hmm.
C'est un truc comme ça, que ce soit dans le secteur de la santé. Mais aujourd'hui, au CHU de Sokodé, par exemple, quand vous arrivez au CHU de Sokodé là, même le directeur de l'hôpital du CHU de Sokodé là ne peut pas décider. Vous allez, un simple ménageur qui est là-bas, là, il va vous dire que si vous faites, vous allez voir que le directeur ne peut pas faire quelque chose.
Mm-hmm.
Dites-moi, dans ce sens-là, comme ça, là, comment le directeur de l'hôpital peut faire pour que les choses puissent marcher?
Ah, oui.
Parce que celui qui est là-bas pour travailler, là, il compte sur quelqu'un qui est plus fort que lui. Pour le directeur qui est là-bas, le directeur a fait quelque chose, vous allez entendre qu'on l'a affecté. Juste parce qu'il a voulu prendre les décisions qui s'imposent. Là, on va l'accepter parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut jouer le rôle du directeur, mais qui veut que ce qu'il lui veut soit fait.
Merci, l'ami Pekensi. Ça nous fait vraiment chaud au cœur.
Le système de l'éducation où on dit qu'on doit limiter les âges. Je peux être d'accord à un niveau donné, mais pas totalement. Il faut comprendre quelque chose. Il ne faut pas limiter les gens dans ce qu'ils sont. Quand on va imposer cela, on va limiter les enfants dans leur réflexion. Donc, laissons les enfants librement. Celui qui peut avancer, avance. Je vous remercie.
Je vous en prie, je vous en prie. Ça fait chaud au cœur, ces deux témoignages en direct depuis Sokodé et lesquels. Seulement, je rappelle que l'éducation nationale, c'est l'une des tâches régaliennes de tous les États. L'auditeur suivant, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Oui. Voulez-vous parler rapidement, s'il vous plaît? Nous sommes à la radio, le temps est compté sur nous.
Allô?
Voulez-vous parler rapidement, s'il vous plaît?
Oui. C'est Thomas Adjo. Je voudrais vous demander si le ministre ne peut pas voir le cas de du collègue, l'enseignant. Je n'ai qu'à le voir. Comment il peut faire pour faire les heures complémentaires? Et ils vont s'entendre et puis c'est fini.
Uh-huh. Donc que le ministre, majesté, si, et le syndic, que le professeur
Moussi, on convoie les gens depuis le nord jusqu'à Dépens. C'est le marché là-bas.
Uh-huh. Pour l'esclavage.
Tandis que c'est le marché, c'est là où les Blancs viennent chercher les gens à Dépens.
Oui, à Dépens, au lieu dit Blocoti, c'est ça, non?
Oui, Dépens.
Oui.
Et Bédrafo, c'est la prison là-bas. D'accord?
Merci beaucoup.
Merci.
Mon oncle Thomas a joué depuis Pomain. Ça fait chaud au cœur. Si le neveu se sent soutenu par ses oncles maternels. L'auditeur suivant, bonjour. Allô?
Allô, bonjour, M. Charles.
Bonjour.
Je suis Corsi de Sabado.
Corsi de Sabado, nous écoutons.
Oui. Vraiment, je vous remercie, monsieur le plateau.
Je vous en prie.
Je remercie nos frères de Sokodé qui sont en train de nous donner vraiment la baume au cœur de ce qui se passe ce jour là-bas. Bon, je voudrais demander au ministre si il confirme que M. Roussino a été rétrogradé.
Bon, le ministre n'est pas ici, mais sûrement il doit nous écouter, ou en tout cas, ses collaborateurs lui rendront compte.
D'accord.
Ouais. Seulement, le ministre dit que son affectation de l'Université de Lomé à l'ENS est parfaitement, administrativement et légalement justifiée.
D'accord. Maintenant, est-ce qu'il a été retrogradé?
Bon, en fait, nous vous disons ce que le ministre a dit.
D'accord. Merci,
je vous en prie, l'ami conseiller de Sagbado. Un autre auditeur, Assam Diabo, ça fait chaud au cœur que tes parents nous suivent en direct depuis Sokoré. Ils réagissent pour confirmer et conforter ce que nous disons.
Oui, si les gens de Ottawa, de Japon, tout ça là suivent, je ne sais pas pourquoi les gens de Sokoré ne suivraient pas.
C'est-à-dire que d'autant plus que l'émission passe en direct.
Bien sûr, en direct, que ce soit sur Internet ou que sur les radios partenaires. Je pense que ce n'est pas les gens de Sokodé qui vont être au bas de l'échelle.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, mes parents, ils sont informés, ils sont d'actualité et ils suivent l'émission au jour le jour.
Alors, tu veux leur dire un petit mot en Kotokoli?
Donc,
j'espère que c'est pas du Cherabiaz. L'auditeur. Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Ali.
Oui, Ali.
Oui, juste pour dire à chacun de nous qu'aujourd'hui, si on est au poste de décision, il ne faut pas l'exploiter pour faire mal à autrui.
Oui.
Le ministre qui donne ses versions administrativement vraies là peut se retrouver dans les mêmes conditions demain. Donc, pourquoi faire des choses, créer des polémiques? Et l'explication est que quand il quitte l'université de Lomé pour le poste actuel, d'abord, le fait que les avantages diminuent, c'est ça qu'on met dans le fait que c'est punitif. Donc, pourquoi faire ça? Et il est secrétaire général de syndicat de l'enseignement supérieur qui défend la cause de ce ministre-là aussi. Pourquoi, les amis, soyons humbles. Et maintenant, un de vos amis là-bas dit toujours aller discuter, alors qu'on ferme la porte de discussion à la personne qui est en position de faiblesse.
C'est pourquoi nous demandons qu'on rouvre la porte des discussions, justement.
Maintenant, disons ceci. Pourquoi toi tu es en position de supériorité et tu fermes la porte à celui qui doit venir demander pardon? Ça montre que c'est l'ego qui est plus supérieur là-bas. L'égoïsme, évitons ça dans le pays pour mettre la cohésion sociale. Merci.
Merci. Je rappelle que le gouvernement fait du dialogue social l'une des armes avec à la manœuvre le ministre Gilbert Bawara. Un tout dernier auditeur.
Hello.
Oui, ici. Oui, ici.
Il me reste un peu dans les 250 francs de forfait. Là.
Ah oui.
J'ai tenu à pied. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos collègues? Ferdinand, tout ça là. Juste pour demander de leurs nouvelles. Et puis, moi, je veux sauter un peu du coq à l'âne. On vous a associé à Priscia. Et alternative faisait tout le boulot de à Priscia, non?
Et si nombreux sont les journalistes qui travaillent sur la problématique de la corruption.
C'est un journal d'investigation.
Oui,
je
vous dis, et si
à Priscia là, qui va nous ruiner encore.
Oui là, et si.
Bon, ça c'est un.
Oui, alors et si vous m'écoutez, c'est vrai que l'alternative faisait un bon boulot, mais nombreux sont les journalistes qui font le même travail
de lutte contre la corruption. C'est lui qui nous expliquait les choses.
Okay.
Et puis, moi, je vois que vous jetez des fleurs, là, aux gens qui règnent sur nous. C'est pas normal. Le ministre de l'Éducation, qu'est-ce qu'il a fait de bien pour que vous lui jetez des fleurs? Hein, il a enfermé les gens. Moi, je sais qu'il a enfermé les profs, les élèves, et il en a radié et tout.
Mais est-ce que vous nous avez suivi durant toute l'émission, s'il vous plaît?
Je n'ai pas trop suivi, mais je sais qu'il y a eu un truc comme ça, quoi.
Ah, il y a ce que que vous n'avez
les
pas suivi.
Les gens ont des postes de responsabilité. Ils ne sont pas là-bas pour régner sur nous.
Oui.
Hein, pour nous opprimer, pour. Non!
Et finalement,
nous servir.
Oui, finalement, la solution, c'est.
Il faut alterner.
Voilà.
Il faut alterner. c'est tout. Et puis, on a lancé des fresques, des filles, tout ça là pour... C'est de l'amusement. Merci. On a du sérieux dans ce pays. Merci. On a faim.
Pour ici,
on n'est pas, on ne rentre pas dans le droit, on n'a rien. Quoi.
Alterner. Merci, merci. Voilà, Hugues, plutôt, Pakoudjo, Sassou et Alnas. Vous avez écouté les auditeurs. Je ne vous cache pas que ça fait chaud au cœur que nos amis de Socoré nous aient appelés en direct et surtout pour partager avec nous des vérités dites comme il se doit.
Moi, c'est ces auditeurs-là qui pensent que nous ne devons pas appeler au dialogue. Je ne vois pas dans quel pays où il y a des situations de crise et on demande aux gens « allez, battez-vous ». Ou soit que celui qui est plus fort règne, comme le disait tout à l'heure Essi, règne sur ceux qui sont faibles.
Non, justement, elle est contre ça. C'est pourquoi elle demande qu'on aille à l'alternance.
Oui. Moi, je dis les auditeurs qui disent que nous ne devons pas demander aux gens d'aller au dialogue, soi-disant que les portes sont fermées et que... Non. Il faut faire un peu de nuance dans cette chose-là. Lorsqu'il y a une situation, nous sommes des journalistes. Nous ne devons pas prendre parti pour le faible ou pour le fort. Autrement dit, nous devons faire en sorte que le problème se règle. C'est un organe qui a reçu M. Roussy pour qu'il parle. Et c'est un organe qui a également reçu le ministre pour qu'il fasse son interview. Et vous dites que les journalistes ne doivent pas demander que les gens aillent au dialogue. Je suis désolé. Faut suivre l'émission avec moins de passion. Hein, et ça.
Merci beaucoup.
Peut-être pour dire que finalement. Il faut que nous sachions ce que nous voulons vraiment pour notre pays.
Hein? Merci, merci. Comme tu l'as dit, nous les médias, nous ouvrons nos colonnes et nos micros à M. Roussy. Il s'est exprimé dans beaucoup d'organes. Aujourd'hui, c'est le ministre Iou qui donne sa version des faits. Mais le débat n'est pas clos. Hein? Iou, je rappelle qu'il est enseignant-chercheur lui-même. Et le jour où il ne sera plus au gouvernement, peut-être qu'il va retourner dans le monde des universités. Hein. Donc le dialogue doit être ouvert et permanent. Isidore ?
Non, mais... Mon micro est ouvert. Bon, maintenant, je crois que
maintenant, ça marche.
Oui. Maintenant, ça c'est ouvert. Non, que le ministre ou juge bon de donner sa version interfaite dans une colonne, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et c'est notre job. Il peut demander que c'est tel organe qui veut et dans lequel il veut s'exprimer, c'est tout à fait normal. Sauf que bon, nous les journalistes avant tout, nous sommes les relayeurs d'informations. Nous n'allons rien inventer, mais c'est un sacerdoce. Le journaliste est avant tout l'avocat de la veuve et de l'orphelin. Et la voix des sans-voix. Ça, ne l'oublions pas. Et quand il y a une situation, ce que nous pouvons demander, c'est que les gens aillent au dialogue. Mais si on constate que le plus fort ferme la porte au dialogue, nous ne pouvons que toujours demander que ces portes-là soient ouvertes. Même Iou Majesté avait traversé des périodes difficiles et c'est le CES qui l'avait sauvé. Faut pas qu'il oublie ça. Faut pas qu'il oublie ça. Nous sommes obligés de lui rappeler. S'il est à l'écoute, il avait traversé des déserts et c'est le CES qui l'avait sauvé. Faut pas qu'il oublie.
Rien de plus pour rappeler que nous devons fonctionner sur des principes. Hein, ces principes qui sont immuables hier, aujourd'hui et demain. Sam Diabon ?
Oui, abondant dans le même sens que mes deux confrères. Moi, je pense que si le CEST, comme le dit Isidore, parce que je veux commencer là où il a chuté, si le CEST avait sauvé le professeur Iou, je pense que le CEST peut sauver aussi le professeur Roussy. Parce que moi, je constate un manque de solidarité autour de la question de M. Roussy. C'est un constat, je le faisais, mais tu ne veux pas croire. Si le CEST, à l'époque, le professeur Iou n'était pas secrétaire général du CEST, mais les autres membres du syndicat ont senti le besoin de le soutenir. Et ce soutien ne doit pas être une conférence publique. Maintenant, pour parler du tourisme, parce que ça me... Il y a des auditeurs qui ont appelé, qui ont estimé que...
Tu as encore 30 secondes.
Oui, parfois, dans certaines localités, les gens ne sont pas... Les bonnes personnes ne sont pas aux bons endroits.
Oui.
Et donc, moi, je pense que le ministre... J'ai jamais vu un ministre qu'on a sorti du gouvernement parce qu'il a fait preuve de fermeté ou de rigueur. Je n'en ai jamais vu. Et donc, le ministre, aujourd'hui, on parle de Rock Hotel qui va être rénové. Ça veut dire que c'est un challenge pour tous les autres hôtels publics.
Après 10 années de rénovation.
Oui, après 10 années de rénovation. Malheureusement, ce n'était pas lui qui était là. S'il est venu et il constate, parce que de tous les hôtels, quand vous arrivez à Rock Hotel, c'est l'un des hôtels les plus touristiques du Togo. C'est-à-dire le site même là où l'hôtel même est juché, vous allez vous rendre compte que c'est un bel hôtel qu'il faut rénover.
Une vue panoramique,
c'est-à-dire que
c'est
un challenge. Il y a d'abord aussi un hôtel. C'est un challenge pour le
carton. C'est un réel plaisir.
Le carton, non.
Hein, sur la demande d'un auditeur, je rappelle la pensée du jour. Les gens se voient, entendent et parlent. Malheureusement, ils voient mal, ils entendent peu, mais parlent trop.
Oui.
Un carton,
un carton rouge.
À qui?
À la CET.
Elle a fait quoi?
Qui a rompu ses contrats avec les agences ou les banques et les institutions auprès desquelles nous payons les factures.
Ah bon?
Oui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi j'étais allé il y a de cela 2 ou 3 jours pour aller payer les frais de la facture de l'électricité à la poste. Et ils m'ont réclamé 200 francs. J'ai dit pour quelle raison? Il dit que ça a commencé depuis 3 semaines déjà.
Ouais. Ah bon?
Et aujourd'hui, hier, vous avez, bon, dans le courant de cette semaine, Timoni a changé les tarifs.
Oui. Donc, la CET?
Pour la CET.
Même pour Cache-Pas.
Pour Cache-Pas.
Ok, ok, ok.
Donc, carton rouge à la CET.
Merci. Et ce carton vaut pour tout le monde parce qu'il est déjà 12h29 et d'ailleurs, il doit venir pour le journal en Mina.
J'avais un carton vert.
Elle est trop dans ma tête. T'as commencé à me passionner.